Bonsoir. Les mathématiques font partie de l'histoire de l'humanité. Et leur origine est apparemment liée à l'invention de l'écriture. On sait que les Sumériens, qui sont parmi les premiers à avoir inventé un système d'écriture, ont également maîtrisé un nombre important de connaissances mathématiques. Certains diront même que l'écriture est née à cause des besoins économiques et aussi mathématiques. Ainsi, on sait que les Sumériens, la civilisation akkadienne qui les a suivis, ont largement eu recours à des mathématiques utilitaires fondées sur le système sexagésimal. À l'époque dite paléo-babylonienne, au deuxième millénaire avant notre ère, les savants mésopotamiens se lancent déjà dans des calculs complexes, qui m'échappent déjà largement, et on a trouvé sur des tablettes d'argile des algorithmes d'extraction des racines carrées, des racines cubiques, ainsi que la résolution d'équations du second degré. À ce savoir s'ajoutera plus tard un intérêt pour l'astronomie. On observe des compétences en mathématiques très tôt aussi dans d'autres civilisations. On peut donc dire que les civilisations et leurs origines sont profondément liées aux mathématiques et à la curiosité des êtres humains pour des connaissances abstraites qui s'établissent grâce à des raisonnements logiques. Il y a donc un lien évident entre les mathématiques et la ou les philosophies qui toutes deux sont constitutives de l'être humain. Le Collège de France a très vite joué un rôle important dans les recherches en mathématiques qui, durant le XIXe siècle, sont devenues l'un de ses fleurons, dont il est à juste titre très fier. De nombreux professeurs de mathématiques du Collège de France comptent parmi les meilleurs spécialistes sur le plan mondial, et je suis heureux que ce soir nous continuions cette tradition en accueillant sur une chaire internationale le professeur Bao Chao Niu, un spécialiste parmi les plus reconnus des représentations et formes automorphes. Et Claire Voisin va vous dire tout à l'heure ce que c'est. Bah oui. Bao Chao Niu est né au Vietnam. Il a fait toutes ses études universitaires en France, admis à l'École normale supérieure en 1992 par la voie du concours international. Il obtint son doctorat sous la direction de Gérard Lomont à l'Université Paris-Sud en 1997. Il a d'abord chargé de recherche au CNRS, affecté à l'Université Paris-Nord. Il travaille ensuite à Orsay, où il est nommé professeur, avant de rejoindre l'Institut d'études avancées de Princeton, où il séjourne de 2007 à 2010. Et depuis 2010, M. Niu occupe une chaire de professeur distingué à l'Université de Chicago. Il est par ailleurs le directeur scientifique du Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics. Les travaux de Bao Chao Niu ont été couronnés par de nombreux prix internationaux, dont notamment la médaille Fields en 2010. Cette distinction, la plus prestigieuse au monde de mathématiques, a récompensé le professeur Niu pour sa démonstration du lemme fondamental. Vous savez, je pense la plupart d'entre vous, cette médaille Fields est attribuée à des mathématiciens de moins de 40 ans, à l'occasion d'un congrès mondial des mathématiciens qui se tient tous les 4 ans, un peu, on peut quand même dire, le prix Nobel des mathématiciens, je crois. Le professeur Niu est justement, en quelque sorte, récompensé de cette manière, un des spécialistes les plus reconnus des représentations et formes automorphes, une branche du domaine général de la théorie des nombres, dans laquelle sont étudiées les propriétés des nombres entiers. Mais pour vous expliquer un peu plus l'importance de ces recherches sur les formes automorphes, je laisse la parole à notre collègue Claire Voisin, tout en souhaitant d'ores et déjà une très cordiale bienvenue, cher Bao Chao Niu, ici au Collège de France. J'espère que vous vous sentez bien et on est très content qu'on a pu vous recruter. Bienvenue.
Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis heureuse de présenter Ngo Bao Chao, titulaire de la nouvelle chaire Formes automorphes du Collège de France. Il succède dans le domaine plus général de l'arithmétique à Jean-Pierre Serre, Donzaghi et plus anciennement à Jacques Adamar. Je pense qu'il n'est pas bon de parler de ce qu'on ne connaît pas et je serai donc très brève. Ngo est célèbre pour avoir démontré le fameux lemme fondamental en utilisant la fibration de Hitchin et je me contenterai de citer ici, avec son aimable permission, la présentation par Gérard Lomont de Ngo lors de son élection à l'Académie des sciences. Donc je cite, c'est même un extrait de la présentation, En 2004, Ngo, qui étudie un de mes textes dans un groupe de travail à l'IHES, a l'idée merveilleuse de remplacer mes jacobiennes compactifiées, qui sont assez artificielles, par les fibres de Hitchin, qui sont bien plus naturelles du point de vue de la théorie des groupes. En peu de temps, l'introduction de la fibration de Hitchin nous permet, à Ngo et moi-même, de conclure dans le cas des groupes unitaires. Malheureusement, cette approche ne marche pas en général. Donc c'est la fin de la citation de l'extrait du texte de Lomont. Alors j'ajoute un peu quelques mots de mon cru. Ce qui me paraît encore plus merveilleux dans tous ces développements, c'est la manière dont ils illustrent l'ubiquité et le caractère protéiforme de la notion de groupe en mathématiques, qui ont fait dire à Poincaré que la mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes. Les groupes dont il s'agit sont associés au nom des plus grands mathématiciens, le groupe de Galois en arithmétique, le groupe fondamental de Poincaré en topologie, ainsi que les groupes de Lie et les groupes algébriques qui apparaissent en géométrie différentielle ou en algèbre. Ces travaux, donc les travaux de Ngo et ceux de Lomont, illustrent également la perméabilité des mathématiques qui a permis à la fibration de Hitchin de migrer de la physique mathématique vers la géométrie différentielle et enfin vers l'arithmétique en passant par la géométrie algébrique. Donc la fibration de Hitchin originale est un système complètement intégrable, très facile à définir sur l'espace de modules des fibrés de X. Et X, c'est le X des bosons de X, donc c'est pour ça que je fais la référence à la physique mathématique. Donc espace de modules des fibrés de X sur une courbe. Sur le corps des nombres complexes, par la correspondance de Simpson-Kobayashi-Hitchin, cet espace de modules est essentiellement, alors il faut ajouter une hypothèse, que la première classe de Tchern est triviale, en bijection avec l'espace de modules des systèmes locaux à coefficients complexes sur la même courbe, vue comme une surface de Riemann. C'est donc aussi l'ensemble des représentations de son groupe fondamental à valeur dans le groupe linéaire, bon, le tout considéré à conjugaison près. Donc ces objets et leurs diverses incarnations sont apparus dans les années 80 et trouvent à travers les travaux de Lomont et Ngo un écho magnifique dans le cadre du programme de Langlands. Et pour parler de l'influence plus générale de Ngo, j'ajouterais que les progrès accomplis par Ngo ont à leur tour permis aux géomètres algébristes, dont je fais partie, de mieux comprendre les propriétés topologiques d'autres fibrations du même type, mais apparaissant dans des contextes géométriques différents.
Merci Claire. Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur d'être invité à donner des cours dans cette illustre maison. Je remercie l'Assemblée des professeurs de me l'avoir faite. Je remercie tout particulièrement Alain Cohn qui m'a encouragé à me porter candidat et Claire Voisin qui l'a présenté à l'Assemblée des professeurs. Cet honneur est aussi grand que terrifiant car il implique mon devoir d'être à la hauteur des illustres prédécesseurs. Le devoir semblait encore plus terrifiant en ce que les cours, chaque année renouvelés, sont censés adresser un large public tout en portant sur la recherche qui est en train de se faire. Mais pour être complètement honnête, je trouve cette équation quasiment impossible à résoudre dans la théorie des formes automorphes, laquelle a donné le nom à cette chaire internationale. Donc pour cette leçon inaugurale, je me serais limité à un aperçu historique de la théorie des formes automorphes. Je l'aurais réussi si à la sortie vous serez d'accord avec moi que les formes automorphes sont des objets mathématiques aussi fascinants que redoutables. En ce point, je ne ferai pas mieux que le regretté Roger Godemont qui un jour a déclaré que les formes automorphes sont l'opium des mathématiciens à l'instar du football, celui des prolétariens. Voilà. Donc, cette leçon est aussi pour moi une occasion pour célébrer l'un des plus grands esprits de la science française. On doit à Henri Poincaré la construction des premières formes automorphes qu'il appelait jadis les fonctions fuchsiennes. En fait, beaucoup de mathématiques qui s'étaient faites au XXe siècle doivent leur existence même à son mémoire sur les fonctions fuchsiennes. La géométrie et topologie contemporaine ne peuvent sans pas s'énoncer sans l'aide des concepts comme l'homologie et le groupe fondamental qui ont été créés par Poincaré en fait en étroite relation avec sa recherche sur les fonctions fuchsiennes. C'est aussi les formes, c'est ainsi que les formes automorphes sont modernes par essence. Elles représentent un complet affranchissement des mathématiques de l'Antiquité, de la Renaissance et de la période classique. Elles sont l'un des piliers des mathématiques contemporaines. C'est la raison pour laquelle c'est absolument redoutable d'expliquer les formes automorphes à un grand public dont les connaissances sont cantonnées aux mathématiques de l'Antiquité, de la Renaissance et de la période classique. Et je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rendre hommage au grand mathématicien canadien Robert Langlands. C'est grâce à Langlands que nous concevons aujourd'hui les formes automorphes et presque toute la théorie des nombres sous un jour radicalement neuf. Si les formes automorphes sont pour Poincaré des fonctions spéciales avec lesquelles on peut écrire des objets géométriques avec des équations, pour Langlands, elles sont l'outil essentiel pour élucider les plus grands mystères de la théorie des nombres, dont la célèbre fonction zeta de Riemann et les fonctions L qui appartiennent à la même fratrie. Voilà. Donc, nous passons aux mathématiques maintenant. Donc, Poincaré a naissance des formes automorphes. Très souvent, les idées mathématiques existent bien avant leur naissance. Dans bien de différents contextes, nous sentons palpiter une sorte de mystère indicible avant que subitement l'éclatante définition soit énoncée, le concept soit décanté de toute contingence et l'incroyable construction soit érigée. Notre conception mathématique est voilà éclairée par une source de lumière toute nouvelle. Ce fut le cas de notre notion des groupes. Les groupes, leurs actions et conséquences apparurent dans les travaux de Deleuze, Gauss, Lagrange et bien d'autres avant qu'elles soient dites de façon définitive dans les travaux de Galois, lesquels nous éclairent une fois pour toutes, sur la possibilité ou l'impossibilité de la résolution d'une équation algébrique par les radicaux. Donc la naissance des formes automorphes suivent des syllabes semblables. Ce sont des fonctions spéciales qui ont été étudiées par l'école allemande, donc Fuchs, Klein, Jacobi et d'autres. Il paraît que ces formes automorphes sont nées vraiment sur le marche-pied d'un omnibus. Donc voici le témoignage de Poincaré même, je vous laisse lire. Ils sont nés sur des marches-pieds, un omnibus d'un chef-lieu en Normandie, que le nombre de ces lieux et ces moyens de transport public soient loués. J'arrête simplement pour dire qu'ici, l'idée qui me vint sans rire que mes pensées antérieures me parut m'y préparer, que les transformations dont j'avais fait l'usage pour définir les formes fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Donc voilà, les mots importants, c'est les transformations et la géométrie non euclidienne. Donc passons en revue cette géométrie non euclidienne. Donc voici ce qu'on appelle le demi-plan de Poincaré. Donc le plan représente les nombres complexes. On m'a dit que pour la leçon inaugurale, il faut passer des nombres complexes. Donc, j'ai réussi. Donc le demi-plan consiste à des nombres complexes dont la partie imaginaire est positive. Donc, voici le demi-plan complexe. Pour faire la géométrie, il faut une notion de distance. Donc, on appelle la métrique riemannienne dans les phares par cette forme dx sur y carré. Donc, ça fait qu'en fait, un plan qui n'est pas plate. La courbure est ici négative. De les droites, sont les droites verticales ou les demi-cercles perpendiculaires à l'arc des X. Donc voilà, sont les droites ou les géodésiques sur ce demi-plan de Poincaré, qui est un modèle, donc en fait le plus usuel de la géométrie non euclidienne. Voilà, donc suivant la conception de Klein de la géométrie, il faut d'abord étudier le groupe des isométries, le groupe des déplacements. Quelles sont les transformations de la géométrie qui préserve la distance. Et dans ce cas-ci, c'est ce groupe-là, le groupe des matrices ABCD, des nombres réels, de déterminant 1, donc AD moins BC égale à 1. Donc, il faut diviser par plus ou moins 1 parce que le moins 1 agit trivialement sur le demi-plan. Et l'action est le transformation homographique. Donc, si vous appliquez ABCD à Z, vous trouvez le nombre AZ plus B sur Z plus D. En fait, ce n'est pas complètement trivial de voir que cet axiome préserve le demi-plan. Il y a une formule, vous voyez bien que la partie imaginaire de ce nombre est la partie imaginaire de z divisée par cz plus d la valeur sur u carré. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une axiome. C'est le groupe de toutes les transformations du demi-plan Poincaré qui préserve la distance non euclidienne. Et un groupe fonction serait un sous-groupe discret de ce groupe continu, le groupe sous-groupe de Lie, et qui agit proprement sur le demi-plan de Poincaré. En fait, la plus grande difficulté, c'est de se représenter, d'imaginer cette action, aussi bien dans le caplar, où ce serait seulement un réseau qui agit sur le plan. C'est facile à imaginer. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la meilleure façon de visualiser cette action, c'est de voir les domaines fondamentaux. Donc, voici l'un des exemples. Vous voyez, ces polygones délimités par les traits noirs, c'est un domaine fondamental. Pour n'importe quel élément du plan, en appliquant l'élément du groupe discret, vous arrivez à l'un de ces polygones. Autrement dit, si on se donne deux domaines fondamentaux, il existe un et un unique élément du groupe discret qui vous permet de passer de l'un domaine à l'autre. Oui. Donc c'est bien plus compliqué que le dessin usuel de translation par un réseau dans le plan. Donc, la géométrie non euclidienne ici est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus de sous-groupes discrets. Cette géométrie est très riche parce que ça nous permet de recouvrer complètement la théorie des surfaces de Riemann. Les surfaces de Riemann, c'est un objet comme celui-ci. C'est ça, c'est un tore à deux trous. On a une surface avec au voisinage de chaque point, ça ressemble à au plan de nombre complexe. Mais ces structures se baladent, se déforment, et le tout, ça reprend une topologie plus compliquée que le plan. Donc, en partant de ce diagramme, si vous prenez l'un des domaines fondamentaux et on recolle les bords selon les règles imposées par l'ensemble du groupe, eh bien, vous retrouverez une surface de Riemann compacte. Et à l'inverse, si on part de surface de Riemann compacte, on peut l'obtenir comme le quotient du demi-plan Poincaré par un sous-groupe discret co-compact, mais le quotient est compact et qui agit sans point fixe. Donc, la plupart des cas, c'est souvent il y a des points fixes. Dans ce cas, il y a des points fixes que j'arrive à dessiner, mais il y a des cas plus simples. Il y a des sous-groupes discrets qui agissent sans point fixe. Donc, ce sous-groupe, co-compact sans point fixe, sont exactement les mêmes que les surfaces de Riemann compactes par le théorème d'uniformisation de Riemann. Donc, une autre théorème très importante de Riemann qui dit que les théorèmes d'existence de Riemann. Donc, ça veut dire que si n'importe quelle surface de Riemann compacte, on peut construire une fonction méromorphe. Donc, méromorphe, c'est une fonction qui, localement, ça ressemble à une série de Taylor, et partout, au pire, ce sont des séries de Taylor avec un pôle fini. Donc si on réalise la surface de Riemann compacte comme ceci, comme le quotient de H par un sous-groupe discret, eh bien, une fonction méromorphe sur le quotient, donc sur ne serait autre qu'une fonction méromorphe sur H, qui soit invariante par le sous-groupe discret gamma. Donc la question de théorème d'existence de Riemann revient à construire les fonctions méromorphes sur H, sur demi-plan de Poincaré, qui soit invariant sous l'action du groupe discret. Donc vous voyez, j'ai une fonction telle que si vous passez d'un domaine à l'autre, la fonction soit la même, soit la valeur soit la même. C'est, en fait, c'est difficile à construire parce qu'on me demande qu'à chaque point localement, ça a une forme, c'est une série de Taylor. Donc, c'est vraiment très difficile d'avoir les deux. L'invariance, l'ensemble de groupes discrets, et en même temps, le côté analytique localement. En fait, au début, Poincaré pensait que Tenfold ne devait pas exister. Il cherchait longtemps à démontrer qu'il n'existe pas avant, en fait, d'arriver à construire une construction éclatante. Donc, voici. Donc, ce que Poincaré appelle les fonctions fuchsiennes. Mais suivant l'usage de Klein, nous les appelons les fonctions automorphes. Alors, pour construire une fonction invariante, la façon la plus usienne, eh bien, c'est de faire une moyenne. Donc, on prend une fonction phi, une fonction analytique, on fait la somme sur toutes les translations par le sous-groupe discret. Une somme est par construction invariante. Mais ici, il y a un gros problème, c'est que le groupe discret est infini. Donc, ici, c'est une somme infinie. Donc, la formation de cette somme infinie comporte un problème de convergence extrêmement sérieux. Donc, en général, si on fait comme ça, ça ne converge jamais. Donc, l'idée de Poincaré est, je pense que c'est la suivante. Si on part d'une surface de Riemann compacte, elle n'a pas de fonction holomorphe non triviale. Donc, on ne peut jamais construire des fonctions holomorphes de cette façon, par la moyenne. Pour autant, il y en a beaucoup de formes différentielles. Donc, c'est beaucoup plus raisonnable de chercher de construire des formes différentielles invariantes plutôt que des fonctions holomorphes invariantes. Et pour construire des fonctions automorphes, eh bien, on prend deux formes différentielles invariantes et on prend le quotient. Donc, c'est ça, je pense, que dans la parlance moderne, l'idée de Poincaré. Voilà, donc, pour construire des formes différentes invariantes, il faut voir comment le groupe gamma agit sur la différentielle. Donc voici la formule. Il translate dz avec ce facteur d'automorphie, dz plus d au carré. Donc du coup, pour former la moyenne, on attraperait ce facteur d'automorphie sur le dénominateur, qui est en fait est à la convergence. En fait, c'est pas difficile à voir que si la fonction h est une fonction holomorphe bornée, il y en a beaucoup sur demi-plan, eh bien cette série de Poincaré va converger absolument uniformément sur tous les compacts. Donc voilà, si on met dz à la puissance k pour une forme différentielle k forme différentielle, eh bien on obtiendrait des formes différentielles invariantes sur h et donc des formes différentielles sur le quotient. Voilà. Et du coup, en faisant le quotient de ces sommes, on obtiendrait toutes les formes automorphes qu'on veut. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur les travaux de Henri Poincaré. Il faut remarquer qu'en fait, ces travaux de Poincaré sont essentiellement très géométriques. Par cette méthode, ce qu'il arrive à faire, c'est de construire des fonctions sur une surface de Riemann compacte, en faisant ces sommes, des moyennes. Avec ces fonctions, il pourrait créer des équations. Donc, à la fin, si vous vous donnez une surface de Riemann compacte, il arrive à décrire comme une courbe algébrique. Donc avec des variables, avec des équations. Les variables sont données par ces séries de Poincaré ou le ratio de séries de Poincaré. Il n'y a pas d'arithmétique. Donc l'arithmétique, ça commence lorsqu'on regarde des groupes fuchsiens très spéciaux que voici sur des groupes d'arithmétique. En fait, en général, c'est le groupe le plus facile à voir. Ça montre des matrices. Donc, au lieu de prendre les matrices avec des coefficients réels, nous prenons les matrices avec des coefficients entiers, donc A, B, C, D dans Z, avec cette relation des déterminants avec un A. Donc, c'est bien un sous-groupe de PSN2 de A, de R. Voilà, donc ça, c'est le groupe A. C'est le groupe modulaire, c'est le groupe arithmétique le plus typique. Et puis, on a tous les autres en prenant les sous-groupes de cet indice fini de celui-ci. Donc, pour le groupe PSN2Z, c'est assez facile de voir qu'il est engendré par deux éléments. Donc ça, c'est la translation, c'est une matrice de translation. Et ça, c'est une matrice d'inversion. Voilà. Donc il agit ici, donc TZ, c'est Z plus 1, alors que T de S de Z sera 1 moins Z avec un signe négatif. Donc 1 moins Z aura sur le demi-plan inférieur, donc il faudrait mettre ce signe moins. Donc, pour visualiser cette action, on doit de nouveau recourir au diagramme des domaines fondamentaux que voici. Oui, donc, le T, il va translater les domaines relativement simples. Alors que le S, donc, il va transformer celui-ci en celui-ci. Et bien, celui-ci est beaucoup plus compliqué à voir. Mais en tout cas, ça, c'est le diagramme des domaines fondamentaux pour le groupe PSN2Z, le groupe arithmétique le plus simple. Donc, vous voyez ici, il y a une différence avec le cas co-compact et que les domaines sont plus compacts. Vous voyez que ça fuit à l'infini. Donc, ici, même celui-là, ça a l'air compact, mais il ne l'est pas parce que ça fuit à l'infini ici. Donc, c'est quand même une pointe. Il n'est plus en demi-plan. Il est en dehors de demi-plan. Donc, mais quand même, on voit bien que ce domaine, bien qu'il ne soit pas co-compact, il est de volume fini. Il y a quelque chose de fini dans ce domaine. Donc, les sous-groupes arithmétiques sont ceci de particulier. Ils ne sont pas co-compacts, mais ils sont de volume fini, avec un nombre fini de pointes. Donc, voilà, dans ce cas-là, il y a une seule pointe. Donc, ça nous conduit à la notion de forme modulaire, qui est exactement comme des formes différentes invariantes qu'on considère Poincaré, mais sauf que maintenant, on ne travaille pas avec des sous-groupes co-compacts, mais avec des sous-groupes d'arithmétique. Donc, ce sont des fonctions holomorphes sur H qui satisfait à cette équation, qui sont satisfaites par cette équation de transformation. Donc, Cz plus de la puissance Km et le facteur d'automorphie. Donc, ça, c'est une forme modulaire de poids K. Et on demande aussi, regardons les pointes, donc il y a une condition aux pointes qui se barre vers l'infini qui doit avoir cette forme-là. Il doit avoir un développement de Fourier de cette forme. Vous voyez, dans le cas le plus simple, gamma égale PSN de 2Z, l'ensemble de toutes ces équations peut être réduit à seulement deux équations, comme c'est dans le T et le S, parce que le T et le S engendrent tout le groupe. Donc, on demande que f de z plus 1 égale f de z, et f de moins 1 sur z soit fz avec ce facteur d'automorphie z puissance k, km. Et si on a cette équation avec le t, on voit bien que f doit se développer en série de Fourier, parce que c'est périodique. Et bien, on demande que ce soit la série de Fourier, donc tous les coefficients sont négatifs. Il n'y a pas, on n'a pas de pôle. Donc voilà, ça c'est la condition d'holomorphie au pôle des formes modulaires. En fait, toute cette définition est complètement similaire pour les sous-groupes d'indices finis. C'est la même chose, c'est la même équation, sauf qu'ici, le T, la translation, peut ne pas être dans gamma, et l'une de ses puissances va être dans le gamma. Donc on va changer un peu, peut-être Q à la puissance une façon rationnelle de N. Mais ça, on va s'en passer, c'est pas très important. Donc voilà, si on prend les séries de points carrés, appliquées à ce cas particulier, et changer une petite variante, pas très important, on retrouve cette fonction comme série d'Eisenstein. C'est très simple. On fait la somme sur tous les MN, sur les des entiers, que les couples d'entiers non nuls aient fait cette puissance. On voit bien que ça se transforme bien par le groupe SN2Z. Ça ne va pas changer cette série. Et ces séries convergent dès que l'entier K qu'on met ici soit au moins 2. Peut-être 2K. J'oublie un 2 ici. Il y a un 2 ici. Donc ça, c'est une forme modulaire de poids 2K. Et voici le développement de séries de Fourier. Donc là, il y a une série de Fourier, et là, c'est le développement de Fourier des séries d'Einstein. On voit beaucoup de constants intéressants en mathématiques. Donc ici, la puissance, c'est les sommes de puissance Km des diviseurs de n. Donc ça, c'est la valeur de la fonction d'état de Riemann à en 2K, et ça, c'est le nombre de Bernoulli, dont je vous épargne la définition. En tout cas, c'est des fonctions très explicites et relativement simples. Même si ça, ça est compliqué, mais ce sont des fonctions relativement simples. Voilà. Mais en fait, l'arithmétique proprement dite commence par la fonction de Ramanujan, son tas de Ramanujan. Donc, on voit E4, la série d'Einstein et de Poiret 4, et on l'élève à la puissance 3, donc ça fait une forme de l'élève de Poiret 12. On fait de même avec E6 à la puissance 2, deuxième, et on fait une différence. Donc la différence pour se débarrasser, en fait, du coefficient constant. Il y a un coefficient constant ici, on arrange pour que delta de z soit une forme modulaire avec le coefficient constant nul. Et ici, on a une formule très belle pour ces fonctions discrètement modulaires, c'est un produit sur n. Et c'est Ramanujan qui étudie beaucoup cette fonction avec ses moyens, enfin, cette situation d'imagination. Il y a beaucoup de conjectures sur cette fonction extraordinaire. En particulier, vous voyez, l'espace des formes modulaires de Poiret 12, cuspidane, ça veut dire le coefficient A0 et nul, est d'une dimension 1. Donc il n'y a qu'une seule forme. C'est extraordinaire qu'il n'y ait qu'une seule forme. Ça a l'air très compliqué, mais c'est un objet unique dans la nature, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il s'agit des équations vraiment très spéciales. Par exemple, taux de Mn est égal à taux M fois taux N. C'est un produit multiplicatif, dès que M et N sont premiers entre eux. Voilà. Ça, c'est vraiment un théorème de Ramanujan qui a découvert cette équation. Et en plus, Ramanujan a conjecturé c'est l'ordre de grandeur des nombres de Ramanujan indique que taux de n, ça c'est un grand taux, je suis désolé pour la faute de frappe, donc le taux de n doit ne pas croître plus vite que n à la puissance 1 sur 2. Voilà. Et en fait, il a fallu toute la puissance de la géométrie algébrique du XXe siècle pour la démontrer, c'est Pierre Deligne qui a démontré cette conjecture de Ramanujan en 72, 73, si je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, voilà. Et en fait, je pense que la forme de Ramanujan, c'est vraiment le début de l'arithmétique des formes modulaires. Donc, il y a une forme très spéciale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement une fonction, une forme différentielle sur la surface de Riemann, mais spéciale. Mais en fait, en plus, c'est une fonction propre, un vecteur propre pour certains opérateurs. Ici, il est trivial en vecteur propre parce qu'il y a un seul vecteur. Donc, il est toujours propre. En général, c'est plus difficile. Donc, les opérateurs, en question des opérateurs de Hecke. Donc, la définition est vraiment très technique, donc je vous épargne les détails. Mais en tout cas, il faut introduire les nombres péadiques. Voilà, ces nombres péadiques, dans le cas où l'indice de gamma dans PSN de Z est le premier à P, eh bien, l'algèbre des doubles classes de SN2 de ZP dans SN2 de QP agit sur l'espace des formes modulaires. Donc c'est un algèbre en fait, qui, là, ça allait très, on va dire, un algèbre très très simple. C'est un algèbre polynôme engendré par une seule variable, c'est l'opérateur TP, donc il va agir comme TP de F, AP de F, si F est une forme propre. Donc là, ça va être plus compliqué. C'est lorsqu'on considère les cas plus compliqués des sous-groupes de congruence, donc des sous-groupes plus petits. Et maintenant, P, c'est le nombre premier qui divise l'indice. Donc là, c'est une situation plus compliquée, de manière arithmétique. Et bien maintenant, quitte à peut-être répéter ces gamma un peu, on peut définir une action, une algèbre de double classe de KP dans SN2 de QP, où KP, c'est un sous-groupe compact ouvert. Ça, c'est un sous-groupe compact maximal. Là, on a un troupeau plus petit. Donc, ce cas est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une algèbre non commutative. Donc, pour dire que c'est un vecteur propre, sous l'action d'une algèbre non commutative d'opérateur, c'est plus compliqué. Ce n'est plus de vecteur propre, mais ça devient un mot d'une somme, c'est une représentation. En fait, ce cheminement de pensée nous conduit directement à l'étude des représentations, ce qu'on dit, lisses et réductibles du groupe SN2 de QP. Donc c'est là, donc c'est dans cette étude de l'action de l'algèbre de Hecke que la théorie de représentation va faire son entrée dans le monde, dans l'étude des formes modulaires. Donc pour dire ce que c'est un vecteur propre, en fait. Dans le premier cas, on s'intéresse bien sûr, pour tous les nombres premiers P, sauf un nombre fini, P ne divise pas l'indice. L'indice, c'est un nombre fini. Donc, on va prendre seulement le vecteur propre sous la somme de TP, le générateur de cet algèbre polynôme. Mais pour les autres P, pour un nombre fini de P, méchant ou compliqué en quelque sorte, eh bien, il faut une théorie de représentation plus sérieuse. On prend des notions listes réductibles de groupe SN2 de QP. Voilà, on va revenir là-dessus, et maintenant on va introduire ce qu'on appelle les fonctions Hecke. Donc là, c'est comment c'est vraiment des objets de premier intérêt en théorie des nombres. Donc si F est une forme modulée de poids K, on va former la série d'irréclés, ensemble en remplaçant le développement de Fourier en série d'irréclés avec les mêmes coefficients. Au lieu de AN, Q puissance N, on prend AN, N puissance moins S, où S est un nombre complexe. Comme les AN ont un ordre grand de données, cette série d'irréclés va converger dans un demi-plan à droite. Demi-plan. Et en fait, un théorème de Hecke a montré que cette série d'irréclés a un prolongement méromorphe sur tout le plan et qui satisfait une équation fonctionnelle. Si on remplace F par F bar, donc le conjugué complexe, et S devient K moins S. Donc lambda, c'est la fonction n corrigée par un facteur gamma qui se voit relativement simplement en intégrant la forme modulaire sur l'axe imaginaire, le transformant donc des Méline. Et en plus, ici, il faut aller un peu lentement, même si c'est très compliqué. Donc les mots clés, c'est que c'est un prolongement méromorphe. Et l'équation fonctionnelle. Et si en plus F est une forme cuspidale, ça veut dire que le premier coefficient est nul, ça impose des conditions de convergence beaucoup plus fortes, alors que la série d'irréclés, en fait, elle est holomorphe partout, il n'y a pas de pôle. Et cette fonction N devient vraiment intéressante d'un point de vue arithmétique lorsque F est un vecteur propre sur les opérateurs de Hecke, dans le sens que j'ai donné. Et dans ce cas-là, la fonction n associée à un produit eulérien, un produit sur tous les nombres p des facteurs locaux. Donc ici, j'ai écrit les facteurs locaux pour les p non ramifiés. Les facteurs locaux sur les p non ramifiés sont plus compliqués, je n'arrive pas à écrire ici. Donc ici, j'écris un peu comme dans le cas de PSN de 2Z, où tout est non ramifié. En fait, pourquoi les mathématiciens sont si fascinés par les fonctions L? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'origine de la théorie des nombres modernes, il y a la fonction zeta de Riemann. Donc, Riemann a introduit cette fonction zeta. Donc, une série d'éclés avec tous les coefficients A. C'est la somme sur les entiers naturels de N plus ou moins S. Donc une série qui converge lorsque le nombre complexe S est plus grand que 1. Et vous voyez, donc là, ça nous permet de revenir à Euclide pour une fois, puisque N, tous les entiers naturels se factorisent uniques en produit un nombre premier, on peut réécrire cette somme infinie comme un produit infini. En écrivant N comme un produit de nombre premier P, eh bien, ça devient la fonction zeta est un produit, surtout dans le premier pays, de ces facteurs locaux. Ça, ça veut dire un produit olérien. Ce que j'ai dit, c'est que si vous développez ces séries-là, de façon la plus bête possible, eh bien, ça une égalité parfaite par terme avec la somme ici, à cause du théorème d'Euclide, que tous les entiers naturels s'inscrivent uniques, comme pour une première P. Voilà. En quelque sorte, c'est l'expression analytique de ce théorème fondamental d'arithmétique. En fait, Riemann n'a écrit qu'un seul article de son vivant sur la théorie des nombres, sur le nombre premier, pas plus grand qu'une quantité donnée. Et c'est là où introduit cette fonction zeta en tant que fonction de variable complexe, en tout cas. Et en fait, il a démontré que la fonction zeta, cette série des clés, a un prolongement méromorphe, surtout le plan complexe, et qui admet une exemple fonctionnelle. Si on corrige zeta de nouveau par ce facteur gamma approprié. Et en quelque sorte, la fonction zeta représente une sorte de comptage arithmétique le plus simple, mais c'est déjà très très compliqué des nombres premiers p. Et les fonctions n, ça va être des comptages arithmétiques beaucoup plus compliqués. C'est en gros ce que cela fait. Et on voyait que l'analogie formelle est quasiment parfaite entre la fonction zeta et les fonctions n. C'est des recherches de Dirichlet qui convergent sur un demi-plan et qui admettent un prolongement méromorphe qui est très similaire et qui admet des développements en produits eulériens. Donc, la vraie question, quelle est la relation entre les fonctions zeta et les fonctions n? Quel est le cadre naturel où vivent toutes ces fratries de bonnes fonctions? Et quelle est la relation? En fait, pour anecdote, les fonctions zeta se généralisent de deux façons. Donc, il y a des fonctions de Hecke et aussi des fonctions n d'actine qui viennent des représentations galoisiennes. Et à l'époque, professeur Actine et professeur Hecke travaillent côte à côte dans des bureaux à l'Université de Hambourg pendant 10 ans et se parlent tous les jours, mais ne se sont pas rendus compte qu'ils travaillent sur les mêmes fonctions. Il a fallu attendre très très longtemps pour maintenant que nous nous rendions compte, mais n'arrive pas à démontrer, mais que sont en fait les mêmes fonctions. Donc avant d'y arriver, il faut que je revienne un petit peu sur les représentants automorphes. Donc là, un nouveau saut dans l'abstraction. Donc on place les fonctions par des représentations de dimension infinie des groupes de Lie. Donc il n'y a plus qu'une seule fonction, mais toute une espèce vectorielle de fonctions. Donc, c'est tout des représentants d'un certain groupe. Donc ici, c'est un groupe réductif. Donc, c'est un groupe pour le groupe des matrices et qui soit défini sur des rationnels. Voilà. Donc, vous pensez groupes des matrices orthogonaux, des groupes de matrices asymplectiques. Donc, les représentants automorphes, c'est donner des représentations à pi infini de groupes de Lie réel, donc c'est des points réels de G, et des représentants πp de G et de qp, tels que le pro est tensorien. Donc vous pouvez. Ça, c'est tous des nombres infinis, mais on fait encore plus infini en prenant le pro tensorien de tout cela, apparaît dans un certain espace de fonction de ce quotient. Donc G de A, c'est des adènes, donc on met tous les nombres périodiques, nombres réels ensemble, divisés par G de Q. Donc là, c'est un espace qui est vraiment difficile à représenter, mais pensez au dessin qu'on a fait, c'est H divisé par gamma. Donc c'est une version hyper abstraite de H divisé par gamma, c'est GA sur GQ. Donc ici, c'est un quotient de ce groupe, pas un sous-groupe. Donc du coup, l'espace de fonction est muni de l'action du sous-groupe, de grand groupe. Et en sorte de décomposer, eh bien, on veut. Et des morceaux irréductibles sont bien des chromosomes automorphes. Alors pourquoi ils sont arrivés intéressants? Parce qu'on a divisé par ce groupe G de Q qui est arithmétique, en quelque sorte. Voilà. Donc, si on commence la forme modulée de Poincaré, qui est un vecteur propre sur les étoiles Hecker, eh bien, d'abord, une donnée à l'européen l'infini, très bien, comme la série discrète, Pk plus, donc je ne vais pas définir, de groupe SN2-2R. Et pour les pi non ramifiés, le πp donne aussi des représentants irréductibles et non ramifiés de SN2 de QP. Et telles représentations sont complètement cassées par un seul nombre complet, c'est le nombre AP, c'est la valeur propre de TP sur ce vecteur propre. Et sinon, dans le cas ramifié, on a déjà pris à peu près comme définition un vecteur propre comme un vecteur dans un espace irréductible. Donc, en les mettant tout ensemble, on retrouve bien, quasiment par définition, une représentation automorphe. Donc voilà. Ce processus que j'ai essayé d'expliquer dans SN2, en fait, ça marche en toute généralité, et bien sûr avec beaucoup de moyens techniques considérables. Et on arrive maintenant au conjecture de Langlands, un fameux conjecture de Langlands qui est en quelque sorte donne une vision arithmétique des formes automorphes. Donc Poincaré donne une vision géométrique, le lien avec la géométrie sur la surface de Riemann, et là Langlands donne l'arithmétique. Donc là, il y a beaucoup de définitions il y a aucune façon que j'arrive à donner. En fait, la première n'existe pas encore. Donc, il y a dans la conjecture l'existence d'un groupe de Galois de Langlands. Donc, c'est un groupe qui, dont l'existence n'est pas encore démontrée, mais on pense que ce sera une extension de groupe de Veil, Galois-Veil, qui est connu par un groupe de Compact, un groupe de Lie Compact. On a un groupe du Han de Langlands pour chaque groupe G, on a un groupe du Han de Langlands G, c'est un groupe aussi, un groupe de Lie. GH est muni d'une action finie de ce groupe de Veil par le produit semi-direct. Donc là, elle est bien définie. Il y a une recette sur les racines et les co-racines qui permet de faire cette construction. Et Langlands, dans sa fameuse lettre à André Veil, datée de 69, et ensuite dans un plus long papier, a présenté dans une conférence à Baltimore, il a fait une suite de beaucoup de conjectures. Mais en fait, c'est la répétition de deux conjectures, la réciprocité, la conjecture de fonctions-réalité. Donc, une réciprocité dit que les représentants automorphes de G sont paramétrés par les homomorphismes de ce groupe de Langlands, dont l'existence n'est pas encore assurée, vers ce groupe du Han de G. Au-dessus de ce groupe de Veil. Donc, il a induit une identité sur ce groupe de Veil. Et en plus, cette paramétrisation automorphe va être compatible à un paramètre des locales, des réponses locales. On remplace le groupe de Veil global par le Veil local, les réponses automorphes par les réponses locales, etc. Et ça, tout ça doit être compatible. Et un second conjecture, qu'il appelle la photoréalité, qui lui ressemble un peu, c'est vraiment un petit frère. Et qui, si chaque fois vous donnez un homomorphisme de NH dans NG, eh bien, ça induit un transfert des formes automorphes, des représentations automorphes de H à G. Et il y a aussi des transferts locaux compatibles. Voilà. Donc, pour les arithméticiens, la réciprocité est plus importante, parce que ça fait apparaître le groupe de Galois. Qu'aiment tant les théoriciens de nombres. Alors, pour les spécialistes des groupes de Lie, en fait, ils aiment bien la fonctionnalité, parce qu'il n'y a pas de groupe de Galois. Et en plus, l'avantage, c'est en fait que ce groupe de mystérieux n'apparaît pas. Donc, cette conjecture est complètement posée et ne présuppose pas d'autres conjectures. Donc, il y a deux conjectures. Donc, on est. Il y a beaucoup de travail, mais on est très loin d'être à bout de ces conjectures. Voilà, un cas célèbre, très médiatique, c'est le cas du théorème de Weiss, pour les formules cuspidales de poids 2, donc le vecteur propre sur le groupe Ricœur, on peut lui attacher une représentation de dimension 2 du groupe de Galois, qui est le HA d'une courbe elliptique définie sur Q. Et un théorème de Weiss, qui est généralisé par Breuil, Conrad, Diamond et Taylor, qui démontre que l'inverse est vrai. En quelque sorte, ça doit être considéré comme l'événement le plus important de théorie des nombres dans la fin du XXe siècle. Ça, c'est une conjecture de formulée par Shimura, Taniyama et Vey, et elle a été démontrée par Weiss, Breuil, Conrad, Diamond et Taylor. Ce qui le rend médiatique et qui porte sa célébrité, c'est en fait qu'il en résulte de façon un peu anecdotique que en fait, le théorème de Fermat est vrai. Donc Fermat, dans les marches de Diofante, dans sa copie de Diofante, il a écrit que cette équation xn plus yn égale à zn n'a pas de solution entière. Non triviale dès que n est au moins 3. Et il a une très belle solution, mais comme la marche est trop petite, il ne peut pas l'écrire. Et en fait, ça a énervé beaucoup de monde pour chercher ce qui se cache sous ces marches trop petites. Et finalement, c'était résolu par Weiss. On a du mal à imaginer qu'en fait, c'est la solution de Fermat. Mais on attend toujours. On attend toujours. Et voilà. Donc. Je termine un peu par quelques lignes. Donc, ce qui me concerne mes travaux approfondis sera la dernière ligne, mais en fait, il y a ce qu'on appelle le problème de l'enlange géométrique qui a été initié par Drinfen et Gérald Aumont. En fait, ici, une sorte de mariage entre les formes automorphes arithmétiques comme ce que fait l'enlange Hecker, et en fait, au début de Poincaré, il était aux géométries sur le surface de Riemann. Donc, c'est quotient, c'est quotient un peu impressionnant, G1 sur GQ, quotient automorphe. Dans ce cas de surface de Riemann, en fait, grâce à André Weil, on peut lui donner plus de structure. En fait, c'est un objet, c'est un espace de module. C'est l'espace de module de fibres vectoriennes sur les surfaces de Riemann compactes. Donc, c'est une existence entièrement géométrique, indépendante de toute considération arithmétique. Et au lieu de construire, de faire de construction des formes automorphes, ici, on construit des objets de géométrie, on construit des faisceaux automorphes, on fait des faisceaux pervers automorphes sur ces espaces de modules. Donc, c'est là, il y avait un programme fabuleux qui était initié par Drinfen et Aumont, qui n'est pas encore abouti, mais qui a aidé à développer aussi bien la géométrie algébrique, l'espace de modules fibrés, que la théorie des formes automorphes. Et ensuite, il y a cette théorie qui est apparentée, mais qui n'est pas exactement théorie d'enlange géométrique, la théorie de Hoche non abélienne, qu'a mentionné Claire Voisin. Donc, sur le surface de Riemann compact, il y a des différents espaces de modules. Celui topologique, qui est l'espace de modules de représentation du groupe fondamental. Donc, si on a un groupe compact, on a un groupe fondamental. Et on prend l'espace de représentation comme un événement topologique relativement important. Et il se trouve que, par théorie de Hoche non abélienne, cet ensemble peut être muni d'une autre structure analytique, comme l'espace de modules fibrés de X. Le X ici, comme on a dit Claire, ça vient du vaguement des particules de X. En fait, c'est une terminologie qui a été introduite par le professeur Hitchin. X, les équations sont de dimension 4 et a décidé de réduire la dimension 2. Donc, ça n'a plus un rapport avec l'équation de X. Mais du coup, l'équation est invariante, pas être conforme. Du coup, au lieu de sur R2, on peut le faire sur la surface de Riemann. Et l'équation sont résolues par les fibres fibrées de X. Et il se trouve que, comme par magie, l'espace de modules de ces solutions, des fibres de X, est le même que l'espace de modules des représentations des groupes fondamentaux. Et en plus, Hitchin a construit un système complètement intégrable sur l'espace de X. Et c'est là où, en fait, que le début de mes travaux dans la théorie de forme automorphe en relation avec l'espace de Modune en géométrie algébrique. Et quand j'avais compris, après les travaux de Gérard Laumont, que les fibres de Hitchin sont plus ou moins les mêmes que les états orbitales qui apparaissent dans la formule de traces qu'on considère Lang-Lanz, Arthur et d'autres. Donc du coup, tous les problèmes qu'on peut déposer dans les formules de Lang-Lanz qui ont trait aux intégrales orbitales peuvent être traduits en termes de géométrie avec la fibre de Hitchin. Du coup, ça commence un dictionnaire, commence à s'ériger, on voit des traductions d'un ensemble dans l'autre. Parfois, des problèmes très difficiles d'un côté deviennent pas plus faciles, en quelque sorte, sont plus faisables d'un autre côté. Et ça, c'est vraiment, c'est pas un dictionnaire qui est absolument parfait, il y a des défauts. Mais c'est pour ça que ça permet d'avancer de côté. Et voilà, donc, avec ce début, cette intuition a abouti sur la démonstration d'un fondamental qui a été très attendu en théorie de forme automorphe. Et en même temps, en fait, donner des informations qui n'étaient pas conduites à l'avance par géométrie algébrique sur géométrie des formes de Hitchin. Et voilà, donc je n'en dis pas plus. C'est la publicité de mon cours qui va suivre. Et j'arrête ici. Je vous en remercie.